Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 4 octobre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter tout de suite le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien a félicité son homologue chinois à l'occasion du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le président syrien appelle le roi de Jordanie pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie. Et en Tunisie, rassemblement pour appuyer les décisions exceptionnelles du président Kais Saied. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien a félicité son homologue chinois à l'occasion du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Dans un message de félicitations adressé au président chinois Xi Jinping, Ebrahim Raisi a déclaré qu'une confiance durable entre l'Iran et la Chine pourrait faire de leur coopération interrégionale un facteur de développement, de stabilité et de paix. Je présente toutes mes félicitations distinguées auprès de vous et de la grande nation chinoise à l'occasion de cette journée nationale et du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, indique le président iranien, et de continuer. Les succès grandioses que la Chine a enregistrés pendant les dernières décennies sont le fruit de l'unité et de la solidarité de cette grande nation ainsi que de la sagesse des leaders comme vous qui tiennent à concrétiser la croissance et le développement national. Le président iranien a ensuite souligné le fait que la Chine se sent engagée au concept du développement met en évidence la perspective qu'a la Chine unie d'un ordre international équitable et populaire qui tient à assurer l'intérêt de tous les pays, notamment ceux des pays en voie du développement. En tant que deux grandes civilisations pacifiques et partenaires stratégiques, l'Iran et la Chine pourront rendre le terrain propice à la réalisation d'un véritable multilatéralisme grâce à une coopération stratégique et gagnant-gagnant. Le président Raisi a ajouté qu'une confiance durable entre les deux pays pourrait élargir le champ de coopération dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route, ainsi que dans le cadre du programme global de coopération, et pourrait également transformer les coopérations interrégionales en le développement, la stabilité et la paix. Le chef du 13e gouvernement de la République islamique a souhaité que, sous son mandat, les relations sino-iraniennes soient marquées de l'essor que les coopérations bilatérales développent dans les différents domaines économiques, politiques et culturels et que le partenariat stratégique entre les deux pays soit opérationnel. l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, doit clarifier sa position concernant l'acte de sabotage commis en juin contre un bâtiment de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a déclaré dimanche 3 octobre le directeur de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami. M. Eslami a indiqué aux journalistes, après une rencontre avec des membres du Parlement iranien, qu'il était important de noter qu'il y avait eu un incident terroriste en Iran, ce qu'Israël avait d'ailleurs reconnu. Interrogé sur la demande de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU d'accéder à un atelier de composants de centrifugeuses dans le but d'entretenir les caméras de surveillance, le responsable iranien a déclaré que l'Iran n'avait aucune obligation d'accorder un tel accès. Le 26 septembre, l'AIEA a en effet annoncé dans un communiqué que l'Iran avait échoué, le 12 septembre, à honorer les termes de son accord avec l'Agence des Nations Unies en ne l'autorisant pas à accéder à l'atelier de Karaj, à l'ouest de Téhéran. Réagissant à cette déclaration, l'ambassadeur iranien auprès de l'AIEA, Kazem Ghalibabadi, a indiqué sur Twitter que le compte rendu de l'agence était inexact et que toutes les décisions prises par l'Iran au sujet des équipements de surveillance étaient basées sur des considérations politiques plutôt que juridiques. Le 6 juillet, l'Iran a accusé Israël d'avoir commis un acte de sabotage contre l'installation de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique à Karaj le 23 juin dans le but présumé de faire dérailler les pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire de 2015. Le président syrien Bachar al-Assad a fait un contact téléphonique avec le roi de Jordanie Abdallah II. Il s'agit du premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre en Syrie il y a plus de 10 ans. Bachar al-Assad et le roi Abdallah II ont discuté des relations bilatérales et des moyens de renforcer leur coopération dans l'intérêt des deux peuples. Les relations entre la Syrie et la Jordanie se sont considérablement dégradées lorsque la Jordanie a choisi de soutenir les terroristes, soutenus par l'Occident dans la guerre en Syrie. Cette conversation téléphonique s'inscrit dans le cadre d'un processus de normalisation des relations bilatérales qui a également vu la réouverture des postes frontaliers et la reprise des vols commerciaux. La Syrie a par ailleurs accepté un plan visant à permettre au gaz égyptien de traverser la Jordanie et la Syrie pour atteindre le Liban, qui a un besoin urgent d'approvisionnement en énergie. Les parties syriennes et jordaniennes ont également conclu un accord pour développer conjointement les ressources en eau le long de leurs frontières communes. Des partisans du président tunisien Kais Saied se sont rassemblés dimanche 3 octobre dans le centre-ville de la capitale Tunis pour manifester leur appui total aux récentes décisions exceptionnelles annoncées par le chef de l'État le 25 juillet dernier, notamment la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple, ARP. Outre la capitale, cette manifestation s'est organisée simultanément dans plusieurs provinces, entre autres Sfax, Sud-Est, Gafsa sud-ouest, Sidi Bouzid centre-ouest, Kasserine centre-ouest et Monastir côte est. Plusieurs partis politiques ont appelé à sortir dans la rue pour soutenir cette manifestation et appuyer la vision du président Kais Saied. Les forces nationales, qui croient en la voie de la correction, sont dans le devoir de participer massivement à ces mouvements populaires, lit-on dans un communiqué conjoint transmis par des partis à l'occasion de cette manifestation. L'armée nationale populaire, ANP, de l'Algérie multiplie les exercices militaires. Moins d'une semaine après avoir mené avec succès des manœuvres militaires à la base navale de Merzel-Kabir, les 29 et 30 septembre, elle participe à un exercice militaire avec l'armée russe en Russie. Les armées algériennes et russes effectuent pour la première fois des exercices militaires conjoints en Ossétie du Sud, au sud-ouest de la Russie. Rapporte le dimanche 3 octobre l'agence de presse russe Sputnik citant le service de presse du district militaire sud. La tenue de ces manœuvres était prévue depuis plusieurs mois. Elle a été annoncée en avril dernier par le ministère russe de la Défense. La cérémonie de lancement de cet exercice, qui va durer jusqu'au 11 octobre avec la participation de 80 militaires de chaque armée, a eu lieu sur le terrain d'entraînement de Tessaskoï en Ossétie du Nord, a précisé le porte-parole du district militaire sud, Vadim Astafiev. L'exercice est consacré aux actions tactiques dans la lutte contre le terrorisme, plus particulièrement à la recherche, à la détection et à la destruction des formations armées. jeudi à Oran et après avoir supervisé un exercice naval, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'AMP, a affirmé le droit de l'Algérie d'avoir une armée forte, développée et professionnelle. Il a ajouté que l'AMP, l'armée nationale populaire, doit être capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, crainte de ses ennemis, lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Comment la Cisjordanie s'est réarmée sous le nez et la barbe des sionistes. Si les autorités israéliennes ont exprimé auparavant leurs graves inquiétudes face à l'incapacité d'Israël pour neutraliser la force de dissuasion de la résistance palestinienne, récemment, selon les médias israéliens, l'existence d'une infrastructure organisée du Hamas en Cisjordanie ainsi que l'accès de la résistance palestinienne aux drones de combat et kamikazes de haute précision sont devenus le nouveau cauchemar des sionistes. Ron Ben Ishai, analyste militaire israélien, a abordé les récents affrontements armés en Cisjordanie, affirmant qu'un coup porté du régime sioniste à l'infrastructure de la résistance palestinienne en Cisjordanie ne signifie pas sa destruction complète. En plus des opérations militaires à Gaza, le Hamas a établi depuis longtemps une infrastructure organisée en Cisjordanie à la demande de ses hauts responsables, a-t-il déclaré. La formation des combattants palestiniens ainsi que les efforts pour produire des matériaux explosifs à l'intérieur des maisons des villages de Ramallah et de Jenin a déjà commencé. Le Hamas dispose en fait d'une infrastructure solide en Cisjordanie, a-t-il affirmé. Paniqué par son échec à contenir la résistance palestinienne à Gaza, le régime sioniste montre désormais sa confusion et sa grave inquiétude en publiant les nouvelles des capacités de la résistance à utiliser ses drones suicides. La résistance palestinienne, en créant un bon niveau de dissuasion, étant le fruit de l'opération de l'épée de Rotz, a mis le régime sioniste en l'impasse. Une partie de cette dissuasion est liée aux capacités et aux armes de la résistance palestinienne, de sorte que, depuis la fin de l'opération de l'épée de Rotz, les sources sionistes se sont focalisées sur les capacités de combat et les nouvelles armes de la résistance palestinienne. La résistance palestinienne a mis l'utilisation de drones à son ordre du jour depuis 2014, pendant la guerre de 51 jours. Depuis la guerre de 2014, la résistance palestinienne a atteint certains de ses objectifs par le biais de l'utilisation de drones. La plupart des drones utilisés par la résistance palestinienne étaient destinés à accomplir la mission de la reconnaissance. Mais ces dernières semaines, les médias israéliens ont exprimé leur vive inquiétude quant à l'accès de la résistance palestinienne à de nouveaux drones de combat et kamikazes et ont décrit cette nouvelle capacité de combat de la résistance palestinienne comme un cauchemar pour le régime sioniste. La chaîne 12 de la télévision israélienne a rapporté que dans les futurs affrontements du régime sioniste sur le front nord ou dans la bande de Gaza, le régime sioniste serait ciblé par les coups de drone de haute précision du Hezbollah libanais ou de la résistance palestinienne. Les sionistes ont prétendu que le Hamas et le Hezbollah libanais cherchaient à se doter de systèmes de missiles de haute précision dont la technologie pour la production nationale serait fournie par l'Iran. Au cours de ces trois mois après l'opération de l'épée de Rotz, les sionistes ont fait tout leur possible pour inverser ou réduire la dissuasion créée par la résistance palestinienne. Mais la vigilance de la résistance palestinienne a contrecarré tous leurs efforts.
à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder en fait de ce qui se passe actuellement sur le plan politique. À en juger par des informations diffusées par certains médias yéménites, le président fugitif et démissionnaire du Yémen a dit sera limogé dans un proche avenir, bientôt. Son limogeage pourrait même s'avérer en fait imminente, selon en fait ces informations toujours diffusées par certains médias yéménites. Et toujours en fait, la presse yéménite précise que l'objectif en est de rendre le terrain favorable au lancement des négociations élargies, inclusives au Yémen. Et cette information est donnée par ces médias yéménites à un moment où le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis était il y a quelques jours à Riyad, où il a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui est en fait l'auteur de cette guerre d'agression contre le Yémen qui a commencé en fait en 2015. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollé. Maître Devollé, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à tous, bonjour aux spectateurs et les bonjour à vous. C'est toujours un plaisir.
Je vous en prie, c'est un plaisir partagé. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est une analyste franco-syrienne qui est avec moi toujours depuis Damas pour cette émission par Skype. Il s'agit de Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à Maître Develé, et puis à toute l'équipe Presse TV, à vos téléspectateurs, et merci de l'invitation.
Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Madame Midani. Madame Midani, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Première question, quelle analyse portez-vous sur ces récents développements relatifs au Yémen, s'il vous plaît? Madame Midani, est-ce que vous avez entendu ma question, s'il vous plaît?
Moi, j'ai entendu la question. Je vous entends bien, mais je n'entends pas du tout, Monsieur Develé. Je l'entends, mais les syllabes sont complètement confondues et j'entends juste un bruit, quoi, quand il parle.
Je vais en fait prier à nos amis à la régie de résoudre ce problème technique, ce souci technique. Mais en attendant, Madame Midani, on va commencer avec vous. Notre émission d'aujourd'hui, quelle analyse portez-vous sur ces récents développements relatifs au Yémen, s'il vous plaît?
En fait, effectivement, après les défaites successives de l'Arabie saoudite au Yémen, il y a en fait on parle de la position en fait des Américains et des Saoudiens qui veulent reprendre la main d'une certaine manière au Yémen, alors qu'ils sont complètement perdants. Ils veulent aussi regrouper peut-être les forces d'intervention, les forces arabes d'intervention. Mais il est clair que, de toute façon, aujourd'hui, la victoire des Yéménites ne fait pas, en fait, elle ne supporte aucune hésitation. On attend bientôt la libération de Maghreb. Les différentes ripostes qui ont touché des centres vitaux au niveau de l'Arabie saoudite, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan économique essentiellement, effectivement, les centres pétroliers, les villes de Neom, les aéroports, en fait, ça montre bien que effectivement les Yéménites sont en train de gagner. Et à mon avis, c'est ceci ajouté au fait les Saoudiens essaye après maintes fois où ils ont proposé de faux cessez-le-feu qu'ils n'ont jamais respecté, de fausses négociations qu'ils n'ont jamais respectées. Là, ils entrent aussi dans une situation où ils veulent faire revivre le démissionnaire. Le président, l'ex-président démissionnaire, et puis le déclarer comme étant lui l'interlocuteur officiel et lui le représentant officiel du Yémen. À mon avis, c'est encore une manœuvre qui est ratée, et donc alors qu'il continue quand même à bombarder le Yémen, il continue à faire le siège, il continue à affamer et à continuer la misère du peuple yéménite en entier.
Mais trop de volets, selon Mme Midani, c'est une, si vous voulez, manœuvre pure et simple du côté des Saoudiens. Mais quand même, il y a cette information qui est tombée par la presse yéménite, comme quoi, du côté saoudien, on est arrivé à cette solution, que la solution, c'est celle du limogeage du président démissionnaire et en fuite du Yémen, Hadi. Votre analyse, s'il vous plaît.
Je pense que vous avez mis le doigt dessus. Je pense que Mansour a pris va servir de fusible dans l'amorce d'un processus de négociation à venir. On ne sait pas exactement quels seront les termes. Le problème fondamental, avant toute évocation d'un processus quelconque, c'est la formulation de la résolution 2216 adoptée en 2015. Ça fait du principe, on peut le penser en tout cas, que la correction menée par l'Arabie Saoudite serait un travail rapide de leurs opérations militaires. Hein. On évoquait à l'époque une promenade de 100 000 durerait 2 semaines. Hein. C'est pas moi qui dis, c'était la presse de l'époque. Or, la réalité sur le terrain est tout autre. Non seulement le conflit qu'on attend depuis 7 ans, avec des catastrophes humanitaires sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, même si les médias impériaux n'en parlent pas beaucoup. Mais donc, une réalité sur le terrain qui voit chaque jour qui passe rapprocher quelque part, non seulement la coalition de manière générale, des pilotes de tout d'ailleurs, et l'Arabie Saoudite, dans son prestige et sa capacité peut-être même à exister en tant que État, si les choses venaient à continuer dans cette trajectoire, à rassembler visiblement des représentants de la Fédération de Russie, des États-Unis d'Amérique, de l'Arabie Saoudite elle-même directement concernée, et bien sûr, du gouvernement, du salut national. Mais malheureusement, il faut revoir le texte. Il faut revoir le texte parce que le texte prévoyait la réinstallation, si je puis dire, du gouvernement démissionnaire ici. Il n'intégrait pas dans son langage la présidence yéménite de la Rantaroula, qui a maintenant pris une place prépondérante dans toutes les négociations à venir. Et j'ajouterai à ça le troisième point de la résolution initiale, portait sur le retour de la résistance des comités de mobilisation populaire de la résistance yéménite et de l'armée yéménite. Position qui a occupé avant 2014, complètement caduque. Et dans ce sens-là, il va falloir ajuster le tir, mettre en place les conditions nécessaires en termes de résolution telle qu'elle existe, telle qu'elle est amenée à évoluer, afin que les parties concernées puissent en situation qui est grande, qui reflète la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et non telle que la solution initiale avec ce qu'il à l'époque. Effectivement, la visite du conseiller à la sécurité nationale Je vais faire parier en avance des échanges avec le pas qui est pour elle sur cette possible sortie de crise. Donc, on a tout maquillé là derrière le rideau, donc probablement à une combinaution de toutes les parties afin de pouvoir enclencher un système de guerre.
La situation de Mme Midani l'a très bien souligné, est catastrophique pour la coalition et au-delà pour les puissances occidentales, dans le sens où c'est toute la région qui risque d'être impactée dans la façon dont eux considèrent leurs intérêts de manière contraire à leurs intérêts. Ça, c'est évident, donc ils essayent de limiter la casse. Maintenant, est-ce que le prince héritier, lui, va se montrer raisonnable ? Il a évoqué la réouverture de l'aéroport international de Sanaa, mais encore une fois, en remettant sur la table cette notion de vol restreint, je pense que c'est complètement caduque à cette conjoncture pour lui d'expliquer des limitations sur les vols qui seraient amenés à transiter dans cet aéroport. Et on apprend encore récemment que la décision a été prise de confisquer un pétrolier au large des côtes du Yémen. Donc visiblement, ce n'est pas du tout les signes que l'on veut voir ni entendre à Sanaa. J'ajouterais à cela qu'il est question d'intégrer dans les pourparlers des factions comme le parti frériste Al-Isla, dont je ne vois pas en quoi il est légitime à négocier quoi que ce soit, ainsi que cette soi-disant coalition du Sud qui n'a, aux yeux de Sanaa, aucune légitimité à exister sur le terrain yéménite.
Madame Midani, maître de volée, en fait, estime que voilà, les signes envoyés par le régime saoudien ne sont pas de ceux que Sanaa veulent entendre, c'est-à-dire ne sont pas convaincants suffisants pour Sanaa. Et réagissant à ces, si vous voulez, récents développements et agissements, un non-responsable yéménite, un non-responsable de la résistance yéménite, a martelé que si l'Arabie des Saoudiens veut la paix, souhaite la paix, elle doit quitter, si vous voulez, le territoire yéménite et mettre un terme à son agression, Madame Midani.
En effet, de toute façon, c'est vrai que la résistance yéménite est une résistance qui emporte tous les jours des victoires importantes. Et puis, elle a asséné des coups vraiment très violents à l'Arabie saoudite qui, elle, continue à raser le pays, en fait, vraiment par des bombardements massifs, successifs, qui détruisent à la fois les écoles, les mosquées, les monuments, l'infrastructure du pays, etc. Donc, en fait, elle ravage le pays complètement. Malgré tout ça, la résistance yéménite a enregistré vraiment de très grandes victoires et est en passe aujourd'hui de libérer la totalité du pays. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Arabie saoudite et ses alliés américains essayent de remettre sur le tapis des négociations qui sont complètement bidons, des accords à nouveau complètement bidons. Ils font semblant qu'ils sont revenus en arrière et en fait l'interlocuteur yéménite. Mais en réalité, ils veulent, comme l'a souligné M. De Velay, ils veulent revenir à la situation d'avant. Or là, ce n'est absolument pas possible et pas acceptable pour la révolution yéménite et pour la résistance yéménite, étant donné tous les dégâts, tous les martyrs, tout le sang qui a été versé, alors que l'objectif, c'est vraiment la souveraineté du Yémen, et sortir complètement de cette domination saoudienne qui fait tout d'ailleurs pour dominer le Yémen et continuer à tirer les ficelles des pouvoirs et forces dans le pays. Or, ceci n'est pas acceptable pour la résistance, mais d'un autre côté, il est clair aussi que les Américains mettent la pression pour que cette guerre soit terminée. Ça a été clair dans les différents discours depuis que Biden est arrivé au pouvoir pour arrêter cette agression sans limite au Yémen. Et donc là, l'Arabie saoudite fait semblant. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, la logique américaine est une logique de retrait de la région. Donc aussi, la présence du responsable américain en Arabie saoudite, à mon sens, milite dans ce sens aussi. On ne continuera pas à vous soutenir interminablement. Il faut arrêter les frais et bon. Donc en fait, c'est pour ça qu'il essaye de faire quelque chose un faux semblant, je dirais, de proposition qui sera de toute manière rejeté par la résistance yéménite et pour dire que c'est pas de mon fait, c'est de leur fait que la guerre continue. Mais la condition essentielle de la résistance yéménite, ils le disent et ils le rappellent, il faut arrêter de nous agresser, il faut arrêter l'agression, il faut accepter qu'on traite avec nous sur le même pied d'égalité. Nous sommes pour la souveraineté totale de notre pays, c'est le peuple yéménite qui décide le pouvoir et les responsables yéménites et la forme du gouvernement. Ce n'est ni aux Saoudiens ni aux Américains de décider ceci. Donc en fait, ils exigent un respect total de la souveraineté du pays et un respect total de l'ensemble des forces yéménites et une non-ingérence aussi dans les affaires yéménites, quelles qu'elles soient. Donc pour l'instant, ça semble être inacceptable pour les Américains. Et encore une fois, inacceptable, surtout pour les Saoudiens, qui, depuis des années, cherchent à pratiquer une sorte de, comment dire, qui cherchent à pratiquer une sorte de tutelle sur le Yémen et une ingérence systématique dans leur affaire intérieure, dans qui les dirige, comment ils les dirigent, etc. Il déplaçait des responsables comme des pions, chose qui n'est pas acceptable pour les Yéménites actuellement, surtout après autant de dégâts et d'années de guerre et de, je dirais, d'efforts et de consentis.
Maître de Volet, je viens de faire allusion tout à l'heure à cette visite en Arabie Saoudite du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et sa rencontre à Riyad. C'était, je suppose, lundi avec le prince héritier des Saoudiens et Mme Midani de Simkouala. Là, il s'agit en fait des pressions exercées par les États-Unis sur l'Arabie Saoudite pour mettre un terme à cette guerre contre le Yémen. Comment peut-on interpréter ces pressions? Les Américains, tout comme les Saoudiens, sont-ils arrivés à cette conclusion qu'ils ont perdu cette guerre contre le Yémen et qu'ils sont contraints de changer de cap?
Oui, je pense que c'est le cas. Je pense que Riyad réalise que la situation est sans issue. Mais la question qui se pose, c'est sauver la face pour le prince héritier. Et visiblement, ce dernier, dans le communiqué qui a été publié suite aux 48 heures de la visite de Jack Sullivan, semble indiquer que même entre les États-Unis, entre Washington et Riyad, il n'y a pas une convergence de vues vraiment très claire. Washington semble pousser vers une solution qui verrait un ajustement cosmétique en la personne du remplacement de Mansour Hadi par quelqu'un qui serait plus à même de, si je puis dire, se montrer raisonnable et prendre en compte les réalités telles qu'elles sont. Mais peut-être que cette personne n'est pas, pour peu qu'elle existe, n'est pas encore, n'a pas été convaincue de servir ce rôle, parce que c'est un rôle ingrat. C'est un rôle qui permettrait de facto au prince héritier d'échapper à toute responsabilité politique, puisque le prince héritier pourrait ensuite s'en laver les mains. Et je pense que même à ce niveau-là, Ben Salman n'est pas convaincu qu'il a forcément perdu la partie, parce qu'il pense qu'il peut jouer la surenchère avec Washington et leur laisser entendre que s'il ne lui amène pas, produise pas le soutien nécessaire pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa logique forcenée et je dois dire irrationnelle, il est prêt à aller jusqu'au bras de fer, si je puis dire, à aller dans cette espèce de politique de fuite en avant. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce communiqué où effectivement il est question peut-être de revoir, de réinventer, si je puis dire, le contexte juridique au niveau de l'ONU, ce qui semble être la suggestion faite par le nouvel envoyé spécial de cette organisation dans ce dossier. Mais à Riyad, visiblement, on en a cure. On semble toujours, et c'est encore une fois par le biais de ce que Riyad perçoit comme des concessions qui n'en sont pas, que l'on s'aperçoit qu'en fait, ils ne sont pas du tout d'accord sur quoi que ce soit, à l'imniche sur ce dossier. Donc, on peut penser que dans ces conditions, la situation militaire va continuer et que le Front du Salut National va poursuivre ses opérations. Ça passera par la libération de Marib, qui maintenant semble s'imposer vraiment plus que jamais, avant de s'étendre aux autres provinces. N'oublions pas que nous avons aussi cette situation avec les îles au large de la côte au sud, occupées par les Israéliens. Donc plus le temps passe, plus les Israéliens consolident leur position, et aux yeux de Sanaa, c'est une position en tant que membre actif de la résistance qui est complètement inacceptable. Donc je pense que ces espèces d'atermoiements venant de Riyad vont finir par agacer Sanaa, et je crois qu'il y a comme un décalage entre Riyad et la vision de ce que Riyad a pour ses intérêts et pour la conduite des opérations et la réalité telle qu'elle est sur le terrain. Et je pense que Riyad essaye dans ce sens-là, faire pression sur Washington. Mais Washington, comme l'a souligné Dr Midani, a d'autres préoccupations géostratégiques et veut essayer de trouver un compromis qui permettrait de préserver l'essentiel avant de se tourner vers d'autres régions du monde.
Maître Arnaud de Volley, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Midanit, d'avoir été
merci
avec moi toujours depuis cette ville Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très
merci
bientôt.
Merci à vous.
Je vous
au
en
revoir.
Prie. Au revoir.
Iran, pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
Poursuivant les précédentes émissions consacrées au jardin persan, nous avons décidé de vous présenter cette semaine quelques de ces jardins iraniens. Restez avec nous. Le jardin de Ferdos à Téhéran. Ce jardin de 20 000 mètres carrés, avec deux édifices au nord et au sud, a été construit à la demande de Mohammad Shah, troisième roi Qajar, 1834-1848. L'édifice du sud fut par la suite complètement détruit. Après la mort de Mohammad Shah Qajar, en 1848, Nasser-Eddin Shah acheta ce jardin et le dédia à sa fille. Après la mort de Nizam-ul-Dawla, le jardin fut légué à son fils, Dost Ali Khan, qui le négligea et fit même arracher les marbres de l'édifice. Un commerçant de Shiraz acheta alors le jardin et entreprit de le rénover. À l'époque Pahlavi, ce jardin était consacré aux fêtes royales et après la révolution islamique de 1979, il devint le musée du cinéma de Téhéran. Le jardin de Cheshme Ali. Ce jardin se situe entre des montagnes et une colline dans une jolie vallée à 35 km de la ville de Damghan. Datant de l'époque de Fath Ali Shah Qajar, il renferme de beaux édifices, jadis lieux de repos estival de Fath Ali Shah, notamment une mosquée, un hammam du côté est du lac et près de l'édifice de Fath Ali Shah, l'édifice d'un poste de garde, Qaravol Khane, qui est en briques, et la salle de séjour des rois Qajar. Cet édifice est construit sur une base en pierre et se situe près d'un lac naturel. Il existe de nombreuses sources autour du lac qui fournissent l'eau potable de la ville de Damghan. Selon les témoignages historiques, c'est en raison de ces sources d'eau que ce jardin était appelé Ali Boular ou Hezar Cheshme, qui signifie mille sources, dans le passé. Le jardin de Barchejouk, dans la province de l'Azerbaïdjan de l'Ouest. Ce jardin se situe à 6 km de Makou, à 2 km de la route principale de Bazargan et d'un village nommé Barchejouk, à l'ouest de l'Azerbaïdjan iranien. Le splendide palais historique de ce jardin de quelques 11 hectares fut construit vers la fin de l'époque Qajar et à la demande de Erbal al-Sultané Makoui, l'un des militaires du roi Qajar, Mozaffar-eddin Shah. On y trouve une source d'eau ainsi que toutes sortes de plantes et d'arbres. Le style est influencé par l'architecture russe de l'époque. En 1974, le gouvernement de l'époque acheta l'édifice du jardin et depuis 1985, il est devenu un musée ouvert au public. Barchejouk a une architecture unique et fut construit dans un cadre hors pair. Ses côtés est et sud donnent sur le pied de la montagne Jelkin et sur la source d'eau Klissé. Il est également situé dans des vergers et les pommiers, les figuiers, les noisetiers, les noyers, les cerisiers, les poiriers, les acacias et les peupliers font partie des arbres de ce jardin. Il semble que, dans le passé, ces arbres auraient été plantés en rang. Une source fournissait l'eau de ce jardin, tandis qu'aujourd'hui, l'eau des neiges fondues et l'eau de pluie constituent la principale source d'alimentation. Le jardin d'Abbasabad. Ce jardin est situé à proximité de la route de Behshahr-Gorgan, à 9 km du sud-ouest de Behshahr, dans la province de Mazandaran, et fut construit à la demande de Shah Abbas Ier au milieu des forêts et au bord d'un lac. L'ensemble du jardin comprend les palais des rois Safavides, deux tours en briques qui auraient été construites entre 1612 et 1613, un hammam, un barrage, un château d'eau, un moulin, des fours à poterie et des bâtiments destinés aux domestiques. Un bel édifice a été bâti au milieu du lac, de sorte que selon les saisons et le niveau de l'eau, il soit émergé ou à moitié recouvert d'eau. Le jardin de Chehel Sotoun dans la province de Mazandaran. Ce jardin datant de 1613 se trouve sur les flancs de la montagne de Borzou et s'étend sur une longueur de 550 mètres et une largeur de 170 mètres. Il fut tout d'abord destiné aux réceptions de Shah Abbas. Les deux allées principales se rejoignent autour d'un grand bassin. Sous le règne de ce dernier, il existait des emplacements pour des bougies tout autour du bassin que l'on allumait durant certaines cérémonies. Ces bougies lui ont donné son nom, le bassin de lumière. Le parc est, lui, constitué de cyprès, pommiers, mandariniers, orangers, citronniers, platanes, chênes, grenadiers et autres rosiers. Le jardin d'Ashraf al-Belad dans la province de Mazandaran. La ville d'Ashraf al-Belad fut construite en 1612 au bord de la mer Caspienne. L'ensemble des jardins d'Ashraf est constitué de 6 jardins séparés l'un de l'autre par des murs en pierre. Cet ensemble comprend un jardin, l'édifice de Chehel Sotoun, le jardin de Cheshme, celui de Tapé au sud-ouest de Chehel Sotoun, les jardins déserts et le jardin de Nord et de Sahiba Zaman. Ces jardins étaient le lieu de séjour hivernal de Shah Abbas Ier et chacun avait une fonction précise, cérémonie, loisirs, chasse, etc. Outre ces jardins, deux autres y ont été construits à l'époque safavite. Le jardin de Safi Abad, où il y avait un observatoire, et celui d'Abbas Abad, destiné à la chasse. Le jardin de Cheshme Emarat. Ce grand jardin de 410 mètres de longueur et 135 mètres de largeur se situe dans la province de Mazandaran. Il a été construit sous le règne de Shah Abbas à Béchar. Au fond du jardin se trouve un pavillon carré de 2 étages orné d'aimants. Au milieu de cet édifice, une source d'eau jaillit et irrigue les plantes du jardin par un système de canaux. Dans le passé, le jardin était divisé en plusieurs petits jardins à cause de la pente de la terre et des problèmes d'irrigation qu'elle posait. La source était également utilisée pour irriguer les champs agricoles environnants. Le jardin de Hasht Behesht à Ispahan. À l'est, le jardin de Hasht Behesht donne sur la rue de Chaharbagh et à l'ouest et au sud sur le bazar. Ce jardin existait à l'époque de Shah Safi, 1629-1642, et que deux autres rois, Shah Abbas II et Soleiman, l'ont par la suite agrandi. Le pavillon de ce jardin fut construit sous le règne de Shah Soleiman 1667-1694. Hasht Behesht est souvent considéré comme le plus beau jardin de l'époque safavide. Les 8 femmes du roi habitaient dans son édifice. 4 s'installaient au rez-de-chaussée et 4 au premier étage. À l'époque du roi Rajar Nasreddin Shah, ce jardin fut dédié à Madame Ozma à condition qu'elle le laisse en état et n'induise aucune modification. Cependant, après sa mort, ses enfants y réalisèrent d'importantes modifications. Le jardin de Chehel Sotoun à Ispahan. Ce jardin, qui se situe dans la ville d'Ispahan, fut construit par Shah Abbas. Au milieu du jardin, un pavillon de 12 mètres de haut a été érigé auquel Shah Abbas a ajouté de grandes salles et des vérandas. Les colonnes de ces salles, en tronc de platane, étaient autrefois ornées de miroirs et de vitres colorées. Le bassin de 110 mètres sur 16 devant l'édifice confère une beauté particulière à ce jardin. Deux statues en pierre représentant 4 lions à l'entrée de cet édifice datent de l'époque Rajar. Un puits très profond fournit l'eau du jardin qui abrite également de nombreux arbres, notamment des sapins, érables, platanes, genévriers, mûriers, cyprès, peupliers, figuiers, etc. C'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, nous vous présenterons d'autres jardins de l'Iran. Ce pays des merveilles. D'ici là, au revoir et bonne semaine.
Thank you.